Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service, l'émission des fêtes société de Radio Okapi. Que faut-il faire pour améliorer les transports fluviales et lacustres en RDC? Nous en parlons avec le professeur Jean-Didier Minengou, il est coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique ACTEC, dans sigle initiateur du projet de création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, FONEF en sigle. Bonjour et bienvenue professeur.
Bonjour Tati et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler hein, pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos commentaires et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple le commentaire de Peter Mabouidi qui nous a écrit depuis la ville de Bandundu. Selon cet auditeur, l'usage des embarcations de fortune comme moyen de transport fluvial et lacustre est à la base des chavirements causant mort d'hommes et des pertes des marchandises des compatriotes congolais. L'État congolais défaillant dans ce secteur, ajoute cet internaute. Nous entendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiocapu.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Feza Bongonda est à la réalisation de cette émission et Polydor Basunga s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette seconde partie d'Okapi Service.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Que faut-il faire hein, pour améliorer les transports fluviales et lacustres en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Des cas de noyades sont couramment enregistrés sous le fleuve Congo et ses affluents. Le dernier cas est celui hein, du chavirement le dimanche 28 juillet dernier au beach Kambolé, dans la ville de Kindu au Maniema. Dans une déclaration lue devant la presse, le gouverneur a précisé que le nombre des victimes passe de 25 à 36 morts. Pour la société civile hein, du Maniema, cet énième accident qui survient deux mois après celui enregistré au niveau de la chute Kamimbi, ayant causé la mort et la disparition de plus de 100 personnes, constitue une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Que faut-il faire alors pour améliorer les transports fluviales et lacustres en RDC? Nous en parlons dans cette seconde partie d'Okapi Service avec le professeur Jean-Didier Minengou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique et initiateur du projet de création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, FONEF en sigle. Professeur, quel état des lieux faites-vous du transport fluvial et lacustre en RDC?
Voilà, une fois de plus, merci Tati pour l'invitation. Donc, comme vous venez de le dire, au-delà de la guerre dont la République démocratique du Congo fait face dans sa partie orientale, avec toutes les conséquences humanitaires, la RDC, notre pays, fait face à une autre tragédie qui est celle que vous venez de décrire. De nombreux naufrages sur les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo, causant des pertes en vies humaines, mais aussi en marchandises. Donc l'économie du pays est aussi affectée. Les études démontrent que près de 104 Congolais par mois meurent sur les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo, et par an, on est à plus de 1200 morts.
Généralement, les 100 cas-là, ce sont des cas qui sont documentés. Il y a aussi des cas qui ne sont pas documentés, qui exactement. Ne sont pas relayés par la presse.
C'est la moyenne, on est autour de 100, mais on peut être au-delà de 100. On peut être au-delà de 104 ou 150 ou 200 morts par mois. Parce qu'actuellement, je crois que les cas de naufrage ont sérieusement augmenté. Pour rappel, comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo, notre pays Tati, compte 25 000 km de voies d'eau navigables. Et ces voies d'eau sont réparties en trois biefs. Vous avez le bief supérieur qui va de Lualaba, Bukama, Kindu, Ubundu. Mm-hmm. Vous avez des lacs qui sont aussi dans la partie orientale. Vous avez le lac Tanganyika, vous avez le lac Kivu, vous avez le lac Édouard, le lac Albert. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les biefs supérieurs. Nous avons les biefs moyens. sur le fleuve Congo qui part de Kinshasa jusqu'à Kisangani, et les deux grands affluents du fleuve Congo, c'est-à-dire l'Ubangi,
rivière Kasai. Et le Kasai.
Nous avons maintenant les biefs inférieurs qui partent de Matadi jusqu'à l'océan. Ces trois biefs sont entretenus et aménagés.
Kinshasa jusqu'à l'océan.
Oui. Donc, ces trois biefs sont entretenus par des structures étatiques. Vous avez la régie des voies fluviales qui s'occupe de l'entretien et de l'aménagement des biefs supérieurs et du bief moyen. Et vous avez la congolaise des voies maritimes, CVM, qui s'occupe de l'entretien et de l'aménagement de la voie Matadi jusqu'à l'océan. Donc ça, c'est la sortie de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, Tati, ces deux structures ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau navigables. Dans le cadre aujourd'hui, comme la République démocratique du Congo a adhéré à la zone de libre-échange continentale, donc le pays est dans l'obligation de développer ce que nous appelons les transports multimodal et interconnectés. C'est-à-dire, pas seulement les routes, il faut développer également les transports fluviaux parce que nous avons près de 25 000 km. Il faut développer aussi les transports ferroviaires. Il est connu de tous que les gros tonnages de produits, que ce soit à l'époque où la République démocratique du Congo, à l'époque appelée Zaïre ou je ne sais pas quoi, était quand même un pays sur le plan économique qui avançait, les voies d'eau et les chemins de fer ont joué un rôle important.
Tout à fait.
À l'époque.
Oui.
Du fait que ces voies aujourd'hui se trouvent dans un état,
plus.
Ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous connaissons, nous sommes ce que nous sommes. Un pays qui n'avance pas avec plus d'efficacité.
Avec des villes très enclavées.
Très isolées du monde. Où un enfant pénètre après 15 ans, il n'a jamais vu un vélo, il n'a jamais vu
une locomotive.
Voilà. Donc, les causes maintenant, revenons sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'on dénombre de nombreux naufrages sur les voies d'eau navigables?
Professeur, il y a un auditeur qui appelle de Bounia. Je pense qu'on peut aller au standard et par après nous allons retourner au studio pour continuer notre rendez-vous. Que faut-il faire pour améliorer les transports fluviaux et lacustres en RDC? Nous en parlons dans cette seconde partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Radio Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Le premier auditeur, c'est Monsieur Thomas. Il intervient depuis la ville de Bounia. Thomas, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour monsieur Tati et bonjour à l'invité ici encore une fois de plus à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous vous donnons la parole.
Je pense monsieur Tati, pour améliorer le secteur des transports fluviaux mais aussi lacustre, surtout ici en RDC, je pense il est nécessaire de mettre en place des mesures de développement des infrastructures parce que si on n'a pas des infrastructures convenables, ça, c'est déjà un problème. On doit se lancer dans ça pour essayer de mettre en place d'abord des mesures de développement de nos états de là. Aller dans des ports ou dans des fleuves, là, vous voyez comment est-ce qu'on n'a pas des infrastructures adéquates quant à ça. On doit se lancer dans le développement des infrastructures, mais aussi on doit renforcer la réglementation quant à ça. Nous passons quand même cette fois-ci, il y a eu des réglementations. On a interdit même aux gens de passer par les fleuves la nuit, mais les gens tellement que l'homme congolais a toujours été ainsi. Vous pouvez les gens parvenir même à violer ces règlements. On a interdit par exemple de passer avec des bateaux la nuit. Mais comment est-ce que quelqu'un peut se permettre à passer la nuit? Vous voyez, c'est déjà un problème sérieux. Mais aussi, quand cela ne tient, j'ai des préoccupations que j'aimerais bien poser à l'inviter. Ça se formule comme suit. Quel est l'état d'abord des infrastructures fluviales et lacustres en RDC?
État des lieux.
Quels sont les états? À quel état on peut retrouver l'état des infrastructures de transport fluvial chez nous? Mais aussi la deuxième question, quels sont les impacts socio-économiques du transport fluvial et lacustre en RDC. On peut, comment, quel est l'impact, par exemple, de nos transports fluviaux ici, mais aussi lacustres, quel est leur impact sur les plans socio-économiques en RDC. Mais aussi la troisième question, quels sont les avantages et les inconvénients d'une coopération régionale pour améliorer le secteur fluvial, mais aussi la quiste en RDC. C'est pas ça mes trois petites préoccupations que j'avais à l'éviter. Et excellente journée à vous, monsieur Tati.
Merci beaucoup, monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Excellente journée. Comment répondez-vous à notre auditeur qui a posé trois questions principales? Il a voulu avoir une idée sur l'état des lieux de nos infrastructures portuaires et maritimes, dans quel état elles sont, et puis l'incidence, l'impact socio-économique de activités maritimes et lacustre fluviale et lacustre ici en RDC, et puis quels sont les avantages liés au développement de ce secteur-là.
Merci beaucoup Tati, je remercie également notre ami Thomas qui a appelé à partir de Bounia. Très bien, je vois qu'il a abordé quelques questions très très importantes. Il a parlé aussi de la renforcement de la réglementation. Il a parlé également de l'interdiction de la navigation la nuit. Sur ces deux points, je voudrais d'abord dire à ce qui concerne l'interdiction de la navigation la nuit, c'est que normalement la navigation la nuit ne peut pas être interdite si les voies sont entretenues.
Sont balisées, sont entretenues.
La navigation ne peut pas être entretenue.
Et si l'embarcation a la luminosité lui permettant de naviguer la nuit?
Bien sûr, sauf aux endroits dangereux où on peut interdire la navigation. Mais aujourd'hui, on essaye d'interdire la navigation de la nuit du fait que les voies ont été abandonnées. Pas d'entretien, pas d'aménagement, il n'y a pas de balise, il n'y a pratiquement rien du tout. Et dans ces conditions, l'interdiction de la navigation de la nuit devrait entrer en vigueur. Mais ce n'est pas une mesure juste. C'est une mesure qui est en train de restreindre, à mon avis, l'activité.
Oui, mais moi je me rappelle, nous étions en expédition scientifique avec Greenpeace au-delà de Mandaka, on a failli chavirer parce qu'il y a la coque d'un bateau qui était dans l'eau. Nous, on ne savait pas, avec la pirogue, on est venu cogner. C'était terrible.
Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, oui, il n'y a personne qui fait ça. Ouais. Alors, par rapport aux trois questions qu'il venait de poser, l'état des infrastructures. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire.
Quand vous arrivez, il suffit de passer au port.
Il suffit de passer au port
public,
de l'Onatra. Il suffit de voir les ports privés. Il suffit d'arriver à Matadi. Il suffit d'arriver à Ilebo. Il y a les grands ports. Et vous avez la situation
Mandaka,
générale de l'État. C'est indélébrement
très avancé.
Et inimaginable pour un pays qui veut aller de l'avant, surtout dans les secteurs des transports fluviaux, qui est un secteur très important. Alors, les impacts socio-économiques, je crois que j'ai essayé un peu d'aborder ça de façon très rapide. Il est connu de tous que les gros tonnages de produits passent à travers les voies d'eau navigables et à travers les chemins de fer.
Et c'est moins coûteux.
Et c'est moins coûteux. Mais lorsque des grandes quantités de produits arrivent sur le marché, de façon très simple, le prix fait quoi ?
Baisse.
Le prix baisse. Oui. Et lorsque les produits manufacturés doivent aller en grande quantité vers les zones de plus reculées, ça ne coûtera plus cher. Le prix va chuter. Baisser. Donc, ça aura un impact socio-économique. Alors, l'avant, il faut une coopération régionale. Parce que le fleuve Congo, il est partagé entre la République démocratique du Congo et la République
de Congo. Ville,
oui. Donc, nous sommes obligés d'être dans la coopération régionale pour gérer avec plus d'efficacité la navigation au niveau du fleuve Congo. Donc, pour être très clair par rapport à la question qu'il venait de poser, parce qu'il a abordé beaucoup de questions, les causes principales de tout ce qu'il y a comme naufrage dans les eaux navigables de la République démocratique du Congo sont principalement d'abord, un, la qualité du personnel navigant. Qui pilote les unités flottantes sur les eaux de la République démocratique.
Ils ont été formés où?
Mais des personnes sans compétences, sans qualification nécessaire, mais peuvent se transformer du jour au lendemain
en un commandant de bateau.
Un matelot qui devient commandant de bateau. Quelqu'un qui était un piroguier, il commence à piloter une pirogue motorisée. Et les conséquences, ce sont des chavirements parce qu'il n'a aucune notion de la réglementation sur la navigation. Et on a, pourtant, en République démocratique du Congo, nous avons une école de navigation qui existe.
Kauka, ici à Kinshasa,
c'est ici, il y en a. Donc, il n'y a pas de raison.
Non, mais l'école avait fermé, l'école a relancé il y a 4 ou 5 ans.
Ah oui, mais l'école est là.
Oui.
Donc, normalement, on ne pouvait pas trouver, parmi les personnels navigants, des gens qui n'ont pas une formation nécessaire. Et c'est ça qu'on dénonce, aussi dans le secteur routier. On voit des gens conduire des véhicules, des chauffeurs, mais des gens
qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas les codes de la route.
Ils ne connaissent rien du code de la route, mais à cause de l'absence du contrôle, à cause de la faiblesse de ceux qui doivent assurer le suivi, mais n'importe qui se met sur la voie publique et il cause des dommages à la société. La deuxième cause, Tati, on va aller très vite, pas seulement la qualité du personnel navigant, mais la qualité des unités flottantes.
Ce sont des baleinières faites en bois.
Chacun, aujourd'hui,
sans contrôle technique,
dans son village, voilà. Il prend des planches,
il fabrique une embarcation et puis voilà.
Donc, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun suivi et tout ça. Et les conséquences, c'est que demain, il y a des naufrages qui se passent à travers les eaux de la République démocratique. La troisième cause, Tati, elle est très importante, c'est le manque de moyens financiers et matériels pour assurer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a des structures importantes. La régie des voies fluviales. Vous avez aussi la congolaise des voies maritimes qui assure l'entretien et l'aménagement des voies. Mais il est connu de tous, il suffit d'aller seulement à la régie des voies fluviales, vous allez voir qu'il n'y a pas suffisamment de moyens.
Même les bâtiments là montrent qu'il n'y a rien dans cette...
Il n'y a pas suffisamment de ressources, Tati. Il n'y a pas de ressources. Donc, du fait que les structures manquent de ressources, elles ne peuvent pas assurer dans la durée l'entretien et l'aménagement des voies d'eau navigables. La conséquence, c'est que la voie d'eau a déjà changé d'endroit.
Il y a un sablement à cet endroit,
et personne n'indique. Et lorsque une embarcation arrive, elle s'enfonce dans les sables et elle ne sait plus.
Il n'y a pas de bouée de sauvetage,
il n'y a pas de signalisation, il n'y a pratiquement rien
du tout. Le fleuve, il est à l'état naturel, comme il a été créé.
Et les navires qui quittent l'océan pour arriver à Matadi, il faut trouver encore comme il n'y a pas assez de signalisation, la voie n'est pas très bien entretenue.
Il faut faire le transbordement, prendre des conteneurs là-bas, mettre dans les petits bateaux pour que ça atteigne le port de Matadi.
Donc, c'est un problème, Tati. La quatrième cause, nous pouvons dire, c'est le non-respect des règles et l'absence de contrôle. Les lois qui régissent les secteurs fluvial et voire même ferroviaire en République démocratique du Congo, mon frère Tati, datent de l'époque coloniale. Les décrets royaux de 1920, de 1925, de 1919. Donc, ce sont ces genres de réglementations qui ne sont plus adaptées, mais qui sont d'application en République démocratique du Congo pendant que la société a suffisamment avancé. Il y a plus de 100 ans. Vous avez le contrôle. Un bateau quitte le port de Mbandaka. Le seul contrôle qui s'effectue, c'est quoi, Tati? C'est de demander un peu de taxes. Personne ne contrôle le tonnage, la capacité que les bateaux, des marchandises que les bateaux pourraient transporter. Tout ce qui intéresse le personnel de contrôle, c'est
l'argent.
L'argent.
Vous payez et puis vous passez.
Vous payez, passez, transportez tout ce que vous avez besoin. Nous, on a besoin de quoi?
D'argent. De l'argent.
Voilà les principales causes de tout ce qu'il y a comme naufrage dans les eaux navigables de la République démocratique du Congo.
Ce sont tous ces problèmes-là, tous ces maux qui ont fait que Ateide puisse penser à la mise en place des fonds des FONEF, professeur.
Merci, Tati. Ça, c'est les problèmes. Nous avons décrit les problèmes. Mais quelles sont les solutions qui ont été proposées, qui ne sont pas encore appliquées? Ça, il faut les dire. En 2020, au mois de février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, crée l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, dont la mission, c'est d'élaborer les politiques publiques pour la transition écologique en République démocratique du Congo. Et en 2021, l'Agence a pris l'initiative, dans le cadre du programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable, de travailler sur la possibilité de créer un établissement public dénommé FONEF, Fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, qui est l'équivalent pratiquement du FONER,
pour mobiliser les financements devant aider à l'entretien,
bien,
à la maintenance, tout ça, des cours d'eau.
Très bien. Mobiliser les financements nécessaires pour entretenir et aménager les voies d'eau et ferroviaires de la République
démocratique du Congo.
Des textes importants ont été écrits et puis proposés. C'est le décret portant création et opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales ferroviaires qui devrait être signé par le Premier ministre. Le deuxième document important pour que le fonds neuf soit opérationnel, c'est l'arrêté interministériel qui fixe les ressources et les modalités de collecte ainsi que l'établissement qui devrait bénéficier les financements. Tous ces textes étatiques, pour tous les auditeurs qui nous suivent, ont été rédigés depuis 2021. Et si vous lisez le programme que le Premier ministre de l'époque, Sam Malokonde, avait présenté à l'Assemblée nationale, à la page 35, il parle de ceci: accélérer la mise en place et l'opérationnalisation du FONEF. Nous, nous avions pris
le document. Là, nous sommes en 2021.
Nous sommes en 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous avions, à l'époque, nous, en tant que service spécialisé de la présidence, nous avons transmis les documents à travers la direction du cabinet. Les documents ont été transmis au Premier ministre de l'époque, M.
Sam Malukonde, qui est aujourd'hui sénateur.
Moi-même, j'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre des Transports de l'époque, l'effet Chérubin Okende, où nous avions eu des échanges très fructueux avec lui pour accélérer, conformément au programme du gouvernement, la mise en place et l'opérationnalisation du FONEF. Jusqu'en 2023, tous les efforts qui ont été fournis étaient vains. Pourtant, les programmes, les fonds étaient repris dans les programmes du gouvernement.
Je me rappelle que ça a même été débattu dans un conseil des ministres.
Très bien, Tati, vous me donnez encore d'autres éléments. En août 2023, lors du conseil du ministre qui s'était tenu, je crois, le 19, en suivant le compte rendu, le président de la République avait instruit les ministres sectoriels pour accélérer
l'opérationnalisation
du FNF. Jusqu'à ce que ce gouvernement est parti, rien n'a été fait. Parce qu'aujourd'hui, le FNF n'existe plus. Pourtant, il est clairement établi que tant que la République démocratique du Congo ne mobilisera pas les financements internes pour entretenir dans la durée les voies d'eau et ferroviaires, il n'y aura aucune solution. On ne peut pas développer le pays avec 2 millions, 3 millions que l'Union européenne et la Banque mondiale va donner pendant qu'on peut, on peut collecter des millions, plus de 100 millions ici.
Si on les fait, pour les routes, c'est les cadres fondaires, on peut aussi le faire pour les voies
fluviales
et lacustres.
C'est ça, Tati. Aujourd'hui, avec les routes, c'est un exemple qu'on devrait imiter ou
pour
pas,
les cadres fondaires.
Pour les cadres fondaires. C'est ça qu'on devrait. Parce que ça donne quand même des résultats. Quand vous quittez sur Mwanda jusqu'à Tchikapa, la route tient quand
carrossable,
même.
Carrossable.
La route tient. Bien qu'il y a des trous, moi-même, je vais, je vois des trous, je me pose la question, tout ce que je paye, moi-même, ce que je paye. Chaque semaine, ce que je paye, c'est beaucoup d'argent. Mais je vois encore des trous. Mais au moins, la route tient. Grâce à ces systèmes.
À l'argent mobilisé par Foner.
Grâce à l'argent mobilisé par les Foner et ses partenaires pour entretenir la durée nos routes.
Donc, c'est l'équivalent du Foner pour l'entretien routier. Et donc, Foner, ça sera pour les voies fluviales et ferroviaires.
Exactement. Donc, c'était pratiquement l'équivalent. Alors, tout le travail était fait. En principe, le gouvernement n'avait plus autre chose à faire. Peut-être de nettoyer les textes. Le Premier ministre signe les décrets, le ministre sectoriel signe l'arrêté interministériel et le FONEF. Et en plus, Tati, les partenaires, le jour de l'inauguration des balisères multifonctions, je crois que c'était en 2022. Il y avait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de l'Union européenne, Charles Michel. Ici,
nous étions ici,
au port public de l'Onatra.
Derrière le studio ici.
Vous avez suivi les déclarations de l'ambassadeur de l'Union européenne de l'époque, M. Le Châtaignier. Il dit, nous saluons l'idée de la République démocratique du Congo de créer les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Nous avons des ressources, ça il l'a dit, que l'Union européenne prévoit près de 700 millions pour accompagner la République démocratique du Congo de 2021 à 2027, nous pouvons mettre pas moins de 200 millions pour les FONEF en vue d'entretenir et d'aménager les voies fluviales et ferroviaires. Donc, Tati, c'est pour dire que tous les efforts qui ont été fournis pour que le gouvernement, le Premier ministre et les ministres sectoriels, sur instruction du Conseil des ministres, tous ces efforts n'ont pas donné des résultats escomptés.
Le dossier, il est à quel niveau exactement?
Bon, je crois que j'ai bien dit.
ATED a confectionner les deux documents, oui, de base. Ben, oui. Ils sont à quel niveau?
L'ATED n'a pas travaillé seul. Je pense que vous avez participé au débat. L'ATED a travaillé avec l'administration de la République démocratique et surtout le secrétariat général des transports était très impliqué dans ces dossiers. Nous avions commencé même le deuxième dossier, celui d'actualiser les textes relatifs
les lois
à
qui
la navigation.
Régissent le secteur de la navigation.
Parce que les textes sont vraiment obsolètes par rapport à la réalité du monde. Mais on ne pouvait plus continuer à faire des choses parce que le premier document qui nous semble être capital n'a pas encore
abouti. Mais entre-temps, professeur, on continue à enregistrer des morts, des cas de noyades, des naufrages, des pertes de biens, des capitaux, des petits commerçants.
D'où l'intérêt pour nous de continuer les démarches. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement. On espère qu'avec Maman Soumina, nous pouvons faire avancer le dossier. Donc, le cabinet va encore retransmettre le programme à la première ministre pour la signature du décret portant fonctionnement et opérationnalisation du FONEF, mais également, nous allons voir également le ministre sectoriel et Jean-Pierre Bemba, il connaît bien le secteur des transports, pour que les choses aillent de l'avant. C'est quand même d'abord ce qui est très compliqué. Ne fût-ce que les cartes, ce qu'on appelle les permis de conduire, ça pose déjà un problème. Le pays peut vivre pendant 10 ans sans que ceux qui sont dans le secteur aient un document qui montre que vous êtes chauffeur. Donc ça pose déjà un problème. C'est un problème sérieux parce que nous sommes même dans les capacités de produire les permis de conduire. C'est un problème. Pourtant, en produisant les permis de conduire, l'État a des ressources. En même temps qu'on dit que l'État n'a pas d'argent, et l'État, le même État, est dans les capacités de produire les permis de conduire.
Je sais même pas si
je crois que
si Jean-Pierre Bemba pourra
changer quand même les choses parce que on ne comprend plus rien du tout dans les secteurs de transport. En tout cas, nous, on ne comprend plus rien. Des choses aussi simples, on ne sait pas les faire.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait redynamiser tout simplement la RVF et la Régie des Voies Maritimes?
Mais, très bien.
Si FONEF semble être des trop dans le secteur.
Non, le FONEF n'est pas des trop. Parce que les fonds qui ont été identifiés, les taxes, les ressources qui ont été identifiées, ce ne sont pas des ressources qu'on a créées. Ce sont des ressources qui existent. Parce que déjà, la Régie des Voies Fluviales elle-même, elle dit: je prends la taxe de navigation, je mets ça dans les FONEF.
Elle existe, la taxe?
La taxe existe, elle est perçue, mais pas de façon ordonnée.
Il se pose un problème de coulage, au fait.
Oui, donc il y a énormément, beaucoup de taxes, beaucoup de ressources qui sont collectées, mais qui ne sont pas canalisées. Donc il était important de mettre sur pied une structure qui collecte ces fonds, donne une partie à la Régie des Voies Fluviales, à la CVM, à la SNCC, à l'ONATRA, à l'OVD, à toutes les structures qui interviennent
dans les secteurs de transport,
et ferroviaire. Et ça serait important, ça créerait également du travail pour les... Parce que le gouvernement parle de millions d'emplois créés. Mais à travers le FONEF, le gouvernement peut les faire. Et aussi, on règle un problème social, un problème économique.
Mobilité de personnes et de leurs biens.
Donc, c'est possible. Donc, tous les efforts ont été fournis. Je crois que on va toujours continuer avec le secrétariat général au transport pour que l'actuel ministre, maintenant ce n'est plus un ministère, c'est devenu un vice-ministère, le vice-premier ministre, nous allons discuter avec le vice-premier ministre pour que les FONEF soient opérationnels et pour qu'aussi, et Tati voulait dire, que ceux qui sont habilités à assurer la mobilité des personnes de soit identifiée à travers...
Soit identifiée, bien formée, voilà, pour bien travailler dans de bonnes conditions.
Exact.
Je lis les commentaires d'un auditeur qui nous envoie un SMS. Il dit « Bonjour ma radio, pour améliorer les transports fluviales et lacustres en RDC, il faut réformer d'abord les agents maritimes. L'État congolais doit disposer des moyens de transport capables de faire face aux vagues et aux intempéries. Aussi, la population qui s'embarque sans tenir compte des tonnages des navires s'expose à des risques énormes. »
Ok. Donc ça, je crois, on a déjà parlé de non-respect de ce qu'on appelle les règles et l'absence de contrôle. Tous ceux qui chargent leurs embarcations dans les ports, il n'y a pas un contrôle rigoureux. Tout en sachant que les voies ne sont pas entretenues, ne sont pas aménagées, mais ajoutez à cela l'absence du contrôle et le non-respect des règles.
Et le pouvoir public n'a presque pas d'embarcation publique. Le bateau Kokolo qui a été réhabilité, ça fait 2-3 voyages et puis...
C'est tombé, il a failli. Bon, en fait, là, je crois que le plus important n'est pas que l'État ait les moyens de mobilité pour les gens sur les voies fluviales et ferroviaires. Parce que si les voies sont entretenues, si les voies sont très bien réhabilitées, les secteurs privés peuvent s'impliquer pour mettre à la disposition de la communauté des embarcations nécessaires pour assurer la mobilité des personnes et de leurs biens. Donc, l'État comme producteur, l'État comme transporteur n'est pas très important. Mais l'État, ce qu'il doit faire et ce qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte que la voie soit
bien entretenu.
C'est comme le cas
adéquat.
L'État n'a pas besoin d'avoir des remorques pour transporter des biens de Matadi jusqu'à Kinshasa.
Non.
Mais la mission de l'État, c'est que la voie Kinshasa-Matadi soit
viable.
Et c'est ça qui peut se faire aussi dans les secteurs des voies d'eau et dans les secteurs ferroviaires.
Mais du point de vue pratique, comment cela sera mis en route, au fait, du point de vue pratique, pour mobiliser des ressources,
oui,
affecter les revenus,
oui,
pour chaque besoin de l'entretien de ces cours d'eau?
Oui, je crois que tout a été prévu au niveau des textes, des propositions de textes portant création et opérationnalisation du FONEF, c'est-à-dire les décrets portant création et opérationnalisation du FONEF et l'arrêté interministériel. Les moyens devraient être mobilisés par un comité, parce que c'est un établissement public qui devrait fonctionner comme le FONER. L'établissement mobilise les ressources et chaque structure était dans l'obligation de présenter un état des besoins. Je donne un exemple. La régie des voies fluviales va au niveau du FONEF, dit bon, nous voulons entretenir la voie
Kwamutu
jusqu'à Ilebo, au niveau de la rivière Kasai. Nous avons besoin de 20 millions. 20 millions, c'est pour acheter les carburants, payer les personnels, faire ceci, installer les balises, etc., etc. Et le FONEF examine la demande, donne le financement à la régie des voies fluviales, contrôle l'exécution des travaux et la voie devient accessible.
Et pour le cas de voies ferrées, ça sera aussi pareil.
C'est la même chose. Il n'y a pas que parce que le fonds devrait financer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau et des voies ferroviaires. Donc, toutes les deux voies, toutes les structures qui interviennent dans les deux secteurs devraient bénéficier le financement du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires.
L'auditeur a élevé aussi la dimension liée à la loi. Les lois sont obsolètes.
Oui.
Il faut revoir également la réglementation dans le secteur.
Oui, je crois que c'est le travail qui va se faire au courant de cette année. Mais nous voulons faire aboutir d'abord la première démarche. Sinon, on s'embarque dans plusieurs choses et à la fin, on ne fait rien. Donc, nous voulons terminer le premier dossier avec le nouveau gouvernement pour voir comment le FONEF peut être opérationnel. Après l'opérationnalisation du FONEF, nous allons nous mettre avec l'administration de la République démocratique du Congo pour travailler sur l'actualisation des textes en rapport avec la navigation et les chemins de fer.
Mais est-ce qu'il est également prévu le volet formation continue, capacitation du personnel commis dans le secteur?
Très bien. Et la formation au niveau de chaque structure pouvait bénéficier du financement du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Tout cela dépend de la manière dont la RVF, la CVM, la SNC ou l'ONATRA formuleraient la demande. Donc c'était prévu la formation du personnel.
Et malheureusement, bon, plus que comme on n'avance pas du côté matérialisation de FONEF, on continue d'enregistrer des dégâts. Le dernier cas remonte au 28 juillet. On ne sait pas si aujourd'hui encore il y a encore un cas de naufrage. Plus on va traîner, plus on va enregistrer des noyades et des pertes en vies humaines et des capitaux des petits commerçants. C'est ça le problème.
Oui, non, je crois que nous allons faire avancer très rapidement le dossier avec le nouveau gouvernement. Comme je vous ai dit, nous allons nous réunir très rapidement avec tous les partenaires qui ont été impliqués dans la rédaction des textes portant création et opérationnalisation du FONEF pour qu'ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure on peut aller de nouveau auprès des décideurs, parce que nous, on n'a pas un pouvoir de décision. Nous n'avons qu'un pouvoir de réflexion. Mais la décision, ce n'est pas notre affaire. C'est ainsi que nous devons aller auprès de ceux qui ont la décision. Ceux qui ont la décision, je l'ai dit, je le répète, pour que le FONEF soit opérationnel, afin de financer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau navigables, vous avez le Premier ministre qui est impliqué et vous avez les ministres sectoriels, c'est-à-dire transport et voies de communication, vous avez économie et puis finance. Ce sont les trois ministères
qui sont impliqués qui sont dans le cadre de la matérialisation de ces fonds.
Voilà.
Voilà, on retourne au standard. Hein. Il y a l'auditeur de Bounia qui est venu à nouveau, qui a un complément d'information à nous donner. Monsieur Thomas, on vous écoute. Bonjour. Réduisez le volume de la radio, s'il vous plaît. Ça risque d'altérer beaucoup la qualité de l'intervention.
Merci beaucoup, monsieur Tati.
S'il vous plaît, monsieur Thomas. S'il vous plaît, monsieur Thomas. Réduisez
cette fois-ci,
éteignez.
Une autre préoccupation, la dernière, cette fois-ci, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de poser ça.
Allez-y.
Allô?
Nous vous recevons 5 sur 5. À vous la parole, Thomas.
D'accord. Merci. La question était celle est de savoir, j'ai suivi l'invité, l'invité m'a répondu, en tout cas soigneusement, là, je suis très ravi de toutes mes réponses à la question posée. Mais j'aimerais citer par cette question, quelles sont alors les expériences de d'autres, de vie d'autres pays qu'on pourra adapter à notre réalité congolaise pour faire face à ces problèmes-là. Quelles sont les expériences dans d'autres pays en matière de développement du transport fluvial et même lacustre qui pourraient être adoptées à notre réalité congolaise? C'est peut-être ça ce que j'aimerais citer par cette question-là. Mais sinon, excellente journée encore.
Merci beaucoup, Thomas. Professeur, comment répondez-vous à M. Thomas de Bounia?
Oui.
Est-ce qu'il y a des cas concrets, donc sous d'autres cieux où on a expérimenté ce type de fonds et qui ça a marché. Les cas ici, on a évoqué les cas des fonds neuf.
Oui, je crois que on ne doit pas sortir de la République démocratique du Congo pour les cas des fonds neuf. Nous avons déjà une expérience très très importante dans notre pays, qui est celle de la création et de l'opérationnalisation du
Fonds national d'entretien routier.
Ça, c'est une expérience qui a reçu. Mais malheureusement, les fonds s'occupe seulement de l'entretien des routes. Or, nous sommes dans ce qu'on appelle les transports multimodal interconnectés. Là où les routes ne peuvent pas être construites, mais il y a des cours d'eau, on utilise ça. Là où les cours d'eau et les routes, ce n'est pas possible, on met les chemins de fer pour faciliter la mobilité des personnes
et
de leurs biens. Donc, l'expérience du Foner, c'est une expérience pour nous très très importante. C'est ainsi que j'ai toujours dit, sans être contredit, que en dépit de tout ce qui a été fait par le régime, l'ancien régime, ils nous ont laissé un outil quand même important de développement, c'est le Foner. Parce que, à l'époque, lorsque la route se coupe entre Kinshasa et Matadi,
les gens faisaient deux mois
il fallait aller chercher l'argent à l'Union Européenne, il fallait aller à la Banque Mondiale. Oui. Et pour que la Banque Mondiale décaisse des millions,
il y a
millions,
des procédures.
Vous faites 10 ans pour avoir ça. Et de l'autre côté, la route est en train de partir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Oui.
Avec les ressources mobilisées en République démocratique du Congo, nous sommes capables d'assurer l'entretien de nos propres routes. Il y a aussi d'autres routes qui sont même construites avec le moyen mobilisé par le Foner. Donc, cette expérience, pour nous, elle est déjà géniale, elle est capitale. C'est l'expérience, au nom de la continuité de l'État, qui devrait être capitalisée dans les secteurs fluvial et les secteurs ferroviaires. C'est une expérience. Et aujourd'hui, bien sûr, tout le monde, toute la littérature démontre clairement que lorsqu'on veut s'engager sur la voie du développement durable, on ne peut pas compter sur le financement extérieur. Vous devez créer vos propres ressources pour amorcer le développement dans notre pays. C'est ça le problème.
Et vous avez dit, les ressources, elles existent. Elles existent, elles ne sont pas canalisées.
Les ressources existent. Je vous parle...
Lesquelles, par exemple?
Je vous donne l'exemple. La redevance logistique terrestre, qui est déjà prélevée par la SNCC et l'ONATRA pour les chemins de fer.
Ils en font quoi?
Je ne sais pas encore, je n'ai pas trop de réponses à donner par rapport à ça.
Alors,
il y a la redevance logistique terrestre, Tati. Je vous ai parlé de la taxe de navigation.
Oui.
Qui est prélevée par
la RVF.
La Régie des voies fluviales. Vous avez la taxe additionnelle de la navigation maritime, qui était à l'époque prélevée par la CVM. Donc, il y a bien sûr d'autres taxes, beaucoup de taxes, qui sont déjà prélevés, mais nous avons créé d'autres taxes aussi pour que les fonds d'entretien des voies fluviales aient suffisamment de ressources pour faciliter l'entretien et l'aménagement.
Mais si c'est le cas, la RVF et la CVM vont se voir dépouillées de leurs prérogatives de mobilisation des
de ces taxes-là. En fait, l'Office des routes n'a pas la prérogative de prélever les ressources. Qui prélève les ressources? C'est le FONER.
Oui.
Mais lorsque l'Office des routes
est dans le besoin, le FONER alimente les routes.
C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de migrants. Mais il y a quelques intérêts occultes, je crois à mon avis, qui bloquent l'opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. C'est pourquoi les gens doivent savoir que l'intérêt collectif prime sur les intérêts individuels. S'il y avait de la bonne foi, Tati, c'était dit dans les conseils des ministres, c'était écrit dans les programmes du Premier ministre lui-même, Sama.
Ça a été représenté dans les conseils des ministres.
Moi, ce que je vous propose, Tati, invitez-les. Parce qu'il a prévu ça. Pourquoi n'a-t-il pas créé les fonds qu'il avait prévus dans son propre
programme de société?
Et ce qui était décidé même dans les conseils des ministres au mois d'août 2023. Rien n'a été fait. Pourtant, on pouvait nous dire qu'il n'y avait rien. Mais les textes, les propositions des textes
ont été élaborées.
Donc, il y a quelques intérêts obscurs qui font en sorte que les fonds ne soient pas créés. Mais on ne doit pas se laisser faire pour ça, parce que le plus important, c'est de protéger les vies humaines, c'est de faciliter la mobilité des personnes.
Et de les bien de désenclaver les zones
rurales. Parce qu'on parle de la lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas dans les discours. La lutte contre la pauvreté, vous allez lutter comment? Tant que les voies d'eau navigables ne sont pas opérationnelles, tant que les trains ne peuvent pas quitter facilement Lubumbashi jusqu'à Ilebo, quelle pauvreté que vous allez lutter? Vous lutterez ça par quoi? C'est pas par les théories, c'est pas par les discours, mais c'est par des actes très simples, mais bien réfléchis, qui ont des responsabilités. La République avance. Je crois que nous allons, comme je l'ai dit, retransmettre de nouveau les textes à la chef du gouvernement et aux ministres sectoriels pour permettre à ce que la République se dote d'un outil capable de mobiliser les financements nécessaires et assurer l'entretien et l'aménagement des voies d'eau et ferroviaires de la République démocratique du Congo.
Donc, les fonds, une fois créés, il sera ici, basé ici à Kinshasa, il mobilise les ressources, il affecte les ressources pour l'entretien des cours d'eau
et des voies ferroviaires
oui, sur l'ensemble territoire national.
Oui. Oui, les voies ferroviaires, on en a autour de 5 000. Il faut construire d'autres voies.
Oui, mais nous venons de Kananga, c'est compliqué. Il n'y a pas de route. Ça ne fonctionne pas et la ville est étouffée.
Mais aujourd'hui, Tati, la pauvreté qui s'agrandit à travers toute la République, lorsque les trains étaient opérationnels, Lubumbashi, Ilebo, vous avez vu un tel nombre de pauvres? Non, il n'y avait pas assez de pauvres comme ça. C'était bénéfique pour tout le monde.
Économie circulaire.
Une économie circulaire. La maman vend des cacahuètes, elle vend un peu de foufou, les gens achètent, et il y a ceux qui viennent avec des polos.
Le savon, le sucre, le sel.
Et la vie avance, l'activité économique. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. C'est la pauvreté, c'est le banditisme, et c'est tout ce que nous sommes en train de décrire. Donc, la lutte contre la pauvreté, je l'ai dit, je reviens, c'est pas un slogan. Ça doit être des actes réfléchis, posés, qui permettent. On ne demande pas aux gens de construire des immeubles. On ne demande pas aux gens de construire des je ne sais pas quoi. Mais poser des actes, aussi modestes soient-ils, mais qui permettent à la République démocratique du Congo de faire quoi? D'avancer. Il n'y a pas autre chose que les infrastructures de communication qui peuvent amener un pays vers le développement. Les gens qui sont au village ne demandent pas l'argent à l'État.
Non.
Parce que l'État n'a pas d'argent pour leur donner. Mais ce que l'État est capable de faire, c'est de construire les routes, c'est d'aménager les voies d'eau navigables, c'est de permettre à ces
qu'ils savent évacuer les marchandises, ils vendent à Kin et puis ils rentrent.
Vous ne leur donnez rien. Oui. Et vous ne verrez plus assez de gens quitter
l'arrière-pays pour les grandes villes.
Pour venir s'installer à Kinshasa. Tant que la circulation est facilitée, je crois que chacun restera
dans son coin,
chez lui, et la vie va continuer et le pays va avancer dans ce coin. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut dire de façon globale. Tant que nous laisserons de côté les voies d'eau navigables, les chemins de fer, il sera difficile pour la République démocratique du Congo de s'engager dans la voie du développement durable. On peut construire quelques kilomètres de route ici, ça ne réglera pas les problèmes. Vous avez des territoires, vous êtes par exemple à l'Équateur, où pour y accéder, c'est que par la voie d'eau. Et si les voies d'eau ne sont pas
aménagé. Ces gens-là deviennent des condamnés à la pauvreté.
Mais il faut voir dans quelles conditions ils voyagent. Dans des radeaux, des grimes rassemblées. Il n'y a même pas de hors-bord pour tirer. Et puis, ça arrive ici à Kinshasa. Il peut faire deux, trois semaines. Ça peut aussi se disloquer dans les fleuves, là.
Oui, oui, c'est ce travail qui va être fait. Je crois qu'avec l'appui de la communication, avec l'appui des journalistes, avec l'appui de la presse, je crois qu'on peut arriver à la mise en place et à l'opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Nous ne disons pas que c'est la finalité des problèmes, mais ça permet de régler quelques problèmes dans le secteur des transports, qui est un secteur stratégique important pour le développement d'un pays. Vous ne pouvez pas vous développer lorsque le transport n'est pas bien assuré. Aujourd'hui, même la question de l'Est, on n'arrive pas à bien gérer ça, parce que l'Est est coupé du reste de la République démocratique.
Tout à fait.
On ne peut pas quitter Kisangani jusqu'à Goma. Donc, la pomme de terre produite à Goma ne peut pas se vendre à Kisangani.
Non.
Mais elle a la facilité de prendre la route de Kigali, elle a la facilité de prendre la route de Kampala et d'ailleurs, mais pas la route de Mandaka, pas la route de Mbujimayi, pas la route.
Ça, c'est un problème.
C'est ça le problème. Le véritable enjeu aujourd'hui, ce sont les infrastructures. Il n'y a pas autre chose, Tati. Parce que si nous avons les infrastructures, même la sécurité des personnes, vous allez assurer ça dans une région qui est enclavée? C'est impossible. Parce que vous ne savez pas déployer les éléments.
Attends,
parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication. Donc, là, les voies de communication, ça permet le développement et ça peut nous aider à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers la République démocratique. Tant que le Kivu ne sera pas intégré dans les blocs économiques de la République démocratique à travers les infrastructures, mais il y aura toujours des problèmes. Parce qu'il y a des enfants qui naissent aujourd'hui au Kivu qui ne viennent pas ici. Il ne connaît pas ici parce qu'il n'y a aucune voie qui le permet d'aller.
Mais ils sont plutôt connectés au pays de la région de l'Est.
Oui, c'est parce qu'il y a des voies de communication.
Exactement.
D'où le transport, c'est un secteur capital
stratégique,
dans le cadre du développement d'un peuple, dans le cadre même de la consolidation de ce qu'on appelle les acquis.
Nous lisons par exemple le commentaire de Patti, hein, Patti qui nous a écrit depuis la ville de Bandundu. Il dit, il faudrait que l'État congolais s'investisse sérieusement dans la chose en réhabilitant par exemple l'Onatra avec deux bateaux de qualité, faciliter les investissements privés qui veulent se lancer, hein, dans ce secteur en exigeant l'utilisation des navires en métaux, tabler sur la formation des utilisateurs de ces embarcations et également bien réglementer, bien assainir le secteur pour réduire sensiblement des cas de chavirement des embarcations.
Très bien, je pense qu'il a dit sur ce que nous avions dit. Il faut réhabiliter l'ONATRA, bien sûr, c'est un établissement public.
Oui, mais okay. On a des réformes en réformes, oui. Rien ne marche.
C'était déjà, on a appelé ça comme
SCTP, on est revenu à l'ONATRA.
Tous ces changements, ça ne sert à rien. Tant que la gouvernance elle-même ne change pas, on peut changer de nom, rien ne va se faire. Donc, le plus important aujourd'hui, Tati, ici je vous parle en tant que prof, le plus important aujourd'hui, c'est pas que l'ONATRA se dote de bateaux. Non, c'est pas ça qui importe. Le plus important pour la République démocratique du Congo, dans le cadre, nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pays comme les Kenyans, ils veulent construire des chemins de fer qui doivent les relier avec
mais nous, déjà, notre pays. Déjà ici, Kinshasa, on est inondé par les produits de l'Angola. Nous, on n'en voit rien.
Oui, en fait, c'est ça qui va se faire. Tant que nous ne construisons pas nos propres infrastructures, il y a la partie ouest du pays qui va être prise en otage par l'Angola. Vous avez l'Est, c'est déjà, comme on sait, tout le Kivu appartient au bloc économique des pays de l'Afrique de l'Est, pas au bloc économique de la République démocratique.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est connu.
Oui.
Vous avez une partie du Kasaï qui dépend également de l'Angola.
De l'Angola, mais très enclavée, beaucoup de problèmes.
Il faut beaucoup de problèmes. Vous avez, par exemple, le Katanga qui dépend totalement
de la Zambie.
De la Zambie et d'autres pays. Donc, il y a énormément d'efforts à fournir sur les plans, comme l'a dit notre premier intervenant, en termes infrastructurels. Parce qu'aujourd'hui, si les infrastructures ne sont pas construites dans notre pays, il y a les risques que les autres viennent les construire à notre place. Parce que le Congo risque de devenir un blocage pour le développement de la libre-échange continentale, pour le développement du continent. Et les gens vont dire, bon, écoute, vous ne construisez pas, nous, on veut passer pour aller vers le Sud-Soudan, nous voulons passer pour aller
on vient
vers
construire
le Tchad.
Chez vous.
Bon, on va construire chez vous. Vers chez vous parce qu'il n'y a pas de route ici. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire ce travail pour éviter que les autres viennent le faire à notre place.
Et cela devrait aller de pair avec le développement ou le déploiement de la zone économique spéciale qui a déjà commencé à montrer ses preuves dans Maluku. On voit des entreprises naître. En principe, ça devrait aller de pair.
Bien sûr, c'est ça qui est important parce que il y a le développement de la zone économique. Il y a des produits qui vont sortir de là. Mais ces produits doivent arriver également dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo pour leur consommation. Mmh. Mais ces produits vont arriver quoi? Lorsque les voies d'eau navigables ne sont pas entretenues, ne sont pas ménagées.
L'avion coûte cher.
L'avion, il n'y en a même plus assez. Il n'y en a pas beaucoup d'avions. Donc même s'il y en avait, c'est difficile de prendre 20 tonnes.
Ce que ça représente comme
coût.
Oui.
Donc nous sommes dans l'obligation d'assurer l'entretien et l'aménagement de nos voies d'eau et du chemin de fer. Avec les ressources collectées en République démocratique, nous devons abandonner cette culture de demander l'argent à l'Union européenne, de demander l'argent à la Banque mondiale. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec l'argent de la Banque mondiale, avec l'argent du Fonds monétaire. Ça, ce sont des appuis ponctuels qui ne peuvent pas remplacer les efforts des Congolais à développer leur propre pays.
Mais dites-nous, professeur Jean-Denis Minengou, nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique ACTEID, initiateur du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires FONEF en sigle, qui souffre de matérialisation. Quelle est la prochaine étape que vous comptez mener?
Très bien. Donc la prochaine, on ne doit pas se fatiguer. Le développement, c'est un combat. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents. Les services qui dépendent de la présidence de la République vont continuer ses efforts pour que les fonds soient mis en place. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on... Le président de la République a parlé de la transition écologique. On ne peut pas assurer la transition écologique dans une République lorsque les infrastructures transitionnelles n'existent pas.
Parce qu'on n'a même pas encore commencé la transition, là.
Nous sommes dans le processus. C'est la transition, c'est le processus. On ne va pas arriver à la transition. Sinon, on a fini la transition, on est à l'écologie. Donc, nous sommes toujours dans un processus de transition écologique. Mais il faut également la volonté de tous les acteurs. C'est comme je vous ai bien dit. Les services où nous n'avons, tout comme les partenaires qui ont travaillé pour l'opérationnalisation du FONEF, n'ont pas un pouvoir pour décider. Il y a la primature. Il y a les trois ministres
qui sont impliqués. Lesquels?
Qui sont directs.
Il y a le ministère des Transports, de communication,
ministère de l'économie et le ministère des Finances.
Tous ces ministères sont mis au courant, ils sont au parfum de ces projets.
Tous les ministères, avec les gouvernements passés, les gouvernements de Monsieur Sama, le Condé, tout le monde est informé. Je vous ai dit que j'ai eu un entretien très important avec notre frère qui est décédé.
Lorsqu'il était au transport,
sur la matérialisation fondée. Et nous, on était un peu avancés par rapport au dossier, mais le dossier n'a pas toujours abouti. Mmh. Donc, le premier travail qui va être fait, le lobbying qui doit être fait, c'est au niveau de la primature. Parce que tant que les décrets portant création et opérationnalisation du FONEF ne sera pas disponible, les autres ministres ne peuvent pas signer un arrêté interministériel.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Denis Minengou. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique à Teide, initiateur du projet de création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Merci d'avoir été avec nous dans Capi Service, une émission de pédagogie et sensibilisation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Excellente journée.
Je serai là. Merci beaucoup. Merci à la Radio Capi.
C'est par ici que nous clôturons le magazine au Capi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonda a réalisé cette émission. Et Polydor Basunga était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Excellente journée.